Bonsoir. Dans l'émission Humanities Talk, le rendez-vous au laboratoire des sciences humaines. Ce soir, mon hôte est Clémentine Boulanger, chercheuse à l'Université du Luxembourg. Bonsoir, Madame Boulanger.
Bonsoir.
Le sujet de votre projet de thèse que vous êtes en train de finaliser est la société de surveillance, un sujet très actuel puisque la question du terrorisme occupe les sociétés européennes au plus tard depuis les attentats du 9 septembre 2001. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet ?
Alors, mon sujet est un peu plus long, c'est la société de surveillance, paradigme de contrôle social en droit pénal européen. J'ai été sensibilisée par la question de la surveillance et son impact en droit pénal, en fait, quand j'ai étudié en master à l'Université du Luxembourg, donc il y a 6 ans. Et à l'époque, mon professeur m'avait donné des projets de travail sur l'étude du droit pénal, état pénal, du contrôle social, de la surveillance, dans le but d'anticiper le terrorisme. Donc, c'est-à-dire renforcement des pouvoirs des forces de l'ordre, des services secrets, un droit pénal de plus en plus flou.
Donc on peut dire que ce durcissement des lois, c'est en relation directe en fait avec les phénomènes de terrorisme contemporain ?
Oui, voilà. Alors le terrorisme véhicule un sentiment d'insécurité et le pouvoir se dit quelle est la réponse adéquate à ce sentiment d'insécurité et au terrorisme qui le véhicule en partie, c'est faire un droit pénal du contrôle social et de la surveillance.
Quelle démarche est-ce que vous avez choisi ? C'est un travail quantitatif ou qualitatif ? Comment vous avez procédé ?
Alors en fait, mon point de départ est l'étude de la pensée, la conception de Michel Foucault dans son ouvrage intitulé « Surveiller et punir, la naissance de la prison ». Tout simplement parce que Michel Foucault perçoit déjà le droit pénal comme un outil de contrôle social et de surveillance qui est instrumentalisé par un pouvoir disciplinaire. Et il s'interroge finalement sur l'évolution de la prison et montre que la prison panoptique, telle qu'elle est pensée par Jérémy Bentham, est un instrument de contrôle social puisqu'elle est reprise, déjà par son architecture, c'est une forteresse circulaire, et en son sein, il y a une tour composée de surveillants qui surveillent d'un seul regard tous les détenus. Et ce modèle architectural est repris par différentes institutions, encore une fois disciplinaires, comme l'école, l'usine, l'hôpital, l'armée, afin d'observer les individus et de les assujettir.
Donc c'est plutôt une approche philosophique, si je peux dire.
Voilà, le point de départ de mon sujet est l'étude de la conception de Michel Foucault, donc une théorie du droit, l'approche théorique du droit et l'approche philosophique du droit. Et je me dis, peut-être que Michel Foucault, sa conception est pertinente sur l'étude du droit pénal et du système pénal contemporain.
Mais vous ne vous avancez pas dans le domaine empirique, disons, en regardant des pays spécifiques ou l'Europe en général.
Alors, empirique, dans le sens collecte de données et comparaison, non. Moi, j'adopte plutôt une démarche normative. Je ne fais pas une thèse de droit comparé, mais j'étudie les mouvances dans certains pays, par exemple la France, les États-Unis notamment.
Une des majeures hypothèses de votre travail, vous l'aviez déjà évoqué, c'est que vous constatez un changement de paradigme et ça implique qu'il y a un avant et un après. Est-ce que vous pouvez brièvement nous montrer ce que vous voulez dire par là ?
Alors, changement de paradigme, c'est très simple, finalement, sans rentrer dans les détails historiques du droit pénal. Si je m'inspire de Michel Foucault, par exemple, dès le début de son livre, dit que le droit pénal du supplice n'est plus. Donc, ça sous-entend que le droit pénal n'est plus instrumentalisé par le monarque pour asseoir son autorité sur les individus. Il est plus là pour ensanglanter, pour châtier. Il devient plus doux. Il devient un droit pénal qui punit, mais dans la réserve, pour ensuite se doter de principes constitutionnels qui lui sont donnés par les philosophes des Lumières. Donc, un droit pénal de plus en plus doux qui punit, puis qui petit à petit corrige, pour ensuite surveiller, comme nous le voyons aujourd'hui. Voilà l'évolution un petit peu.
Mais donc, ce n'est plus le traitement de l'individu, en fait, qui est au centre, mais plutôt la société qui est à protéger. On pourrait dire que c'est ça.
Alors, le traitement de l'individu, si vous voulez...
C'est l'individu criminel, disons.
Oui, alors Michel Foucault disait déjà que la correction de l'individu était une forme de contrôle et d'assujettissement. Il avait raison, puisque à l'époque, on cherchait à normaliser, le pouvoir disciplinaire cherchait à normaliser les illégalismes qu'il décidait comme étant des illégalismes. Et finalement, aujourd'hui... on surveille ce qu'on soupçonne, ce qu'on présume être un illégalisme. Donc, finalement, il y a toujours de la surveillance et elle peut être toujours disproportionnée.
Dans votre travail, vous évoquez aussi les nouvelles technologies. Ça joue un rôle important, mais est-ce que ce n'est pas normal que le droit change avec le progrès de la science, que les technologies nouvelles soient utilisées pour devenir plus efficaces dans la lutte contre les crimes ?
Alors, vous avez tout à fait raison, le droit et le droit pénal doit certainement vivre avec son temps et nous voyons très bien aujourd'hui que les nouvelles technologies telles que le traitement automatisé des données, la prolifération des bases de données, des systèmes d'information, et puis donc tout ça, ce sont des nouvelles technologies, enfin véhiculées par les nouvelles technologies, et ce sont des nouvelles formes d'enquête pénale, une manière d'exercer une mission policière, une enquête policière de manière proactive. Tout à fait, ce sont des moyens qui facilitent d'une certaine manière les missions des forces de l'ordre.
Mais... on peut aussi penser, par exemple, à l'introduction de l'empreinte digitale, l'utilisation de l'empreinte digitale. En 100 ans, je suppose que c'était aussi quelque chose de très, très innovateur et où les gens se sont posés des questions aussi sur leurs droits en tant que présumés innocents.
L'empreinte digitale n'est pas quelque chose de nouveau en soi, puisque l'ancêtre de l'empreinte digitale est apparu à la fin du 19e siècle et développé par une technique qui s'appelle l'anthropométrie par Bertillon, un Français. La question n'est pas est-ce que c'est mal d'utiliser les nouvelles technologies le progrès, si vous voulez, scientifique. La question, c'est dans quelle mesure on les utilise et comment on les utilise. Et leur utilisation, au jour d'aujourd'hui, sont disponibles. Proportionné et vraiment pas nécessaire, d'après moi.
On va peut-être encore revenir à cette question, mais ce qui m'avait aussi frappé, vous parlez donc de la société de surveillance, et c'est vraiment un mot qui est très souvent utilisé dans les discussions actuelles. Par contre, dans les années 80, on parlait de la société du risque et je trouvais ça intéressant, ce shift. Disons, il y avait un sociologue allemand qui s'appelait Ulrich Beck qui a écrit, vous connaissez le livre sûrement, et il visait justement aussi les nouvelles technologies, mais plutôt l'énergie atomique. Et il décrivait donc que les conséquences de l'utilisation de ces technologies ne seraient pas contrôlables ou même qu'on ne pourrait pas anticiper ce que ça allait donner. Donc là, on a un peu un inversement de la discussion.
Alors, Ulrich Beck dit que le risque est quelque chose d'assez difficile à appréhender, puisqu'il renvoie aux peurs et aux angoisses. Et il se dit que finalement, le développement de la science, le développement du progrès effectué par l'homme, parfois peut se retourner contre lui. Et vous en avez donné un exemple. Il dit aussi que le risque peut être externe à l'homme, ou venir de celui-ci. Dans le cadre des nouvelles technologies, on peut y voir peut-être un parallèle, puisque l'homme développe ces nouvelles techniques liées au corps, qui devient une information, ou alors à une chosification de l'individu, qui n'est finalement plus qu'une empreinte digitale, ou pourquoi pas un profil Facebook, que sais-je. Et alors, on a une chosification de l'individu qui se retourne contre nous, puisque nous ne protégeons plus nos données à caractère personnel, notre vie privée, par exemple. Et donc, on donne toujours plus de pouvoir au pouvoir et on limite la démocratie dans la plus large des perspectives. Donc ça peut être une menace, effectivement.
Pour notre interlude musical, qui est toujours choisi en fonction du thème de l'émission, vous avez proposé Un dimanche de janvier de Johnny Hallyday, de son album De l'amour. Quelques mots d'explication, peut-être ?
Bon, bien évidemment, nous avons tous été touchés par les attentats qui ont été perpétrés contre Charlie Hebdo et l'hypercacher en janvier 2015. Alors, ce dimanche de janvier, c'est très intéressant parce que dans la chanson, Johnny Hallyday se demande que reste-t-il finalement de ce dimanche de janvier. Et j'ai essayé de me poser la question, que reste-t-il ? Et finalement, la situation, et je parle peut-être de manière propre à la France, la situation s'est empirée étant donné que nous avons sombré au lendemain des attentats du 13 novembre dans l'état d'urgence, une généralisation ou du moins un cran, enfin qui donne lieu à un cran supérieur de la généralisation de la surveillance et une limitation des droits fondamentaux, une atteinte aux libertés. Et donc je pense que la situation est devenue vraiment très critique.
De regards et de larmes à peine essuyées, des millions de pas sur les boulevards, un dimanche de janvier. J'avais ta main petite dans la mienne recroquevillée. Nos cœurs battaient de plus en plus vite ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Pour apaiser la peine de tout un pays soulevé, nous étions venus sans peur et sans haine ce dimanche de janvier. Pour garder en mémoire nos héros d'encre et de papier, nous étions restés debout jusqu'au soir, ce dimanche de janvier. Là, nous avions marché en silence au milieu de la foule immense, et le vent à notre place chantait sans fin sur la place. Depuis dans nos villes et nos villages fatigués, oh dis-le-moi, que nous reste-t-il du dimanche de janvier ? Que reste-t-il de ce dimanche de janvier ? Que reste-t-il de ce dimanche de janvier ? Oh, que reste-t-il de ce dimanche de janvier ?
Vous êtes toujours branché sur la fréquence 100,7 avec l'invité de l'émission Humanities Talk d'aujourd'hui, Clémentine Boulanger. Je m'entretiens sur le changement de paradigme qui a eu lieu dans le domaine du droit pénal en ce qui concerne l'anticipation des crimes, notamment terroristes. Et nous avions déjà évoqué l'aspect de l'état d'exception, donc on est en train de le vivre dans divers pays européens, notamment la France. Et vous avez déjà dit que au lieu d'une durée réduite, on a l'impression que ça s'étire de plus en plus. Au Luxembourg aussi, il y a eu une proposition de révision de la Constitution. Est-ce que vous avez analysé ces phénomènes également dans votre travail ?
Propre au Luxembourg, non, pas vraiment. Je le mentionne, bien évidemment, mais j'en ai pas fait une étude. Par contre, j'ai pu constater que finalement, le Luxembourg a profité de cette réforme constitutionnelle qui est dans les bacs depuis maintenant quelques temps et qui a profité du changement un petit peu de tendance en France pour se poser la question et se dire, tiens, est-ce que nous pourrions doter, nous aussi, notre constitution de ce type de mesures. Alors, je rappelle dans mon travail que l'état d'exception ou l'état d'urgence en tant que tel, c'est le transfert des pleins pouvoirs à l'exécutif. Je ne mâche pas mes mots en disant cela. Et je pense que ce tel transfert est fait pour protéger, d'une certaine manière, l'état de droit et les libertés et assurer la sécurité. La sécurité prend trop de place par rapport aux libertés. Et ce n'est pas en donnant les pleins pouvoirs à l'État qu'on garantit la liberté et qu'on garantit finalement l'état de droit.
Et mais en fait, cet état d'exception, oui, ce n'est pas quelque chose de si nouveau si on regarde le XXe siècle. On bien voit sûr dans beaucoup de bien pays sûr européens que bien ça a déjà été utilisé. Est-ce que maintenant il y a une sorte de saut qualitatif là-dedans ?
Il y a plutôt, je dirais, un phénomène de mode qui arrive et qui fait que le Luxembourg s'interroge, voilà, sur la mise en œuvre de l'état d'urgence et de son inscription dans la Constitution. Peut-être que c'est le caractère symbolique que le législateur luxembourgeois souhaite mettre dans la Constitution. Peut-être qu'il y a une volonté de s'attacher, voilà, au symbole des pleins pouvoirs, etc., sans forcément après le mettre en œuvre. Mais à partir du moment où une disposition comme celle-ci rentre dans la Constitution, pour moi, c'est un petit peu dangereux quand même.
Vous aviez déjà évoqué l'image du panopticon utilisée par Michel Foucault. Et on pourrait en fait dire que cette image est transposée, cette image qui vient de la prison est transposée sur la société en général.
Bien sûr, bien sûr. Alors Michel Foucault l'a expliqué à plusieurs reprises. Pour lui, il se demande si Jérémy Bentham n'a pas voulu faire du panopticon une forme généralisable de fonctionnement de la société. Et bon, dans ma thèse, je montre qu'il n'y a plus aujourd'hui d'objet disciplinaire. Il n'y a plus de pouvoir disciplinaire qui est mis en place, mais le panopticon, lui, est toujours là. Et il a pris de l'ampleur. C'est ce que j'appelle le panopticon 2.0, parce que au lieu d'avoir uniquement les institutions disciplinaires, il y a tous ceux qui souhaitent s'allier à la cause sécuritaire qui le mettent en œuvre, finalement. Et ça peut être les entités privées, comme les transporteurs aériens, comme les fournisseurs de télécommunications. On l'a vu avec les instruments PNR notamment, avec les transporteurs aériens, la collaboration qu'il y a entre les forces de l'ordre et ces entités publiques. Donc voilà, il y a un panopticon que j'appelle une version améliorée, le panopticon 2.0, qui est toujours présent.
Et les conséquences de tout ça, qu'est-ce que ça peut faire à notre société ?
Elles sont très graves, étant donné que c'est une menace directe pour la démocratie, parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où les données des individus sont prises par le domaine public ou privé, et que ces données sont ensuite transférées au domaine public, donc à l'État, au pouvoir, l'État utilise ce savoir à nos dépens. Ce qui fait que le peuple n'est plus souverain. Ce n'est plus le peuple qui dirige, c'est, on en vient à la figure du pouvoir totalitaire, du totalitarisme. Donc c'est très grave ce qui peut arriver. Cette surveillance de masse est très grave.
Mais vis-à-vis d'actes terroristes comme celui que Berlin a connu il y a quelques jours, comment échapper à cette logique sécuritaire? Parce que c'est aussi difficile ou presque impossible de dire on ne va pas faire ça. Si on a les moyens technologiques de contrôler, on ne va pas contrôler. Comment vous...
Est-ce que la nouvelle technologie, est-ce que l'exploitation des données a pu anticiper l'attentat de Berlin? Je ne pense pas, puisqu'il a eu lieu. Pour moi, la surveillance n'est pas la solution, puisque la surveillance apparaît, on ne peut plus, inefficace. C'est vrai que, par exemple, si je prends les attentats qui ont été perpétrés à Nice, si je reviens un court instant dessus... Donc j'étais à Nice, non pas le 14 juillet, mais le 15 juillet, et pour y passer mes vacances. Et figurez-vous que ce camion est passé devant toutes les vidéosurveillances de la ville, toutes les caméras de la ville. Deux jours de suite, au même moment, aux mêmes heures. Et que les camions sont en plus interdits à la circulation sur la promenade des Anglais depuis 1960. Donc vous croyez vraiment que les nouvelles technologies ont permis, ou l'état d'urgence, ont permis d'éviter cet attentat? Non. Donc pour moi, la question de la surveillance n'est pas la solution.
Mais à côté de cette question de l'efficacité de la technologie, on a quand même aussi l'impression que lorsqu'il y a de nouvelles technologies, elles seront aussi inévitablement utilisées. Si on regarde un peu l'histoire, c'est plutôt rare que ces possibilités n'ont pas été utilisées.
Bien évidemment, mais c'est tout à fait normal d'utiliser la nouvelle technologie. Mais il ne faut pas penser que la nouvelle technologie va pouvoir anticiper les événements, les attaques, le terrorisme. Elle va être là pour... reconduire les faits, recouper les faits, voir ce qui s'est passé. Elle va être là pour essayer d'arrêter un individu. Elle va servir à des fins d'enquête, c'est très bien. Mais elle ne sera pas là comme une boule de cristal qui permet d'anticiper. Et c'est à ce titre-là que je porte un message très finalement engagé. Je souhaite qu'on limite la surveillance de masse qui est effectuée sur les individus, qu'on protège davantage leurs droits fondamentaux. Et de toute manière, on n'arrivera pas à anticiper un crime tel que les attaques terroristes qui ont été perpétrées.
Donc c'est peut-être une sorte d'illusion que l'on se fait, ou bien que l'État diffuse aussi, peut-être.
Alors, l'État souhaite tout simplement légitimer. Pourquoi ? Parce que pour lui, il bénéficie directement de cette surveillance, puisqu'il veut contrôler les individus, il veut contrôler l'ensemble de la population. Et c'est pour ça qu'il utilise ces nouvelles technologies. Et il nous fait croire que c'est pour anticiper le terrorisme. Mais pas du tout. Ça, c'est le prétexte sécuritaire qu'on nous sert dans les médias, qu'on nous sert en politique, qu'on nous sert à toutes les sauces, et finalement, qui n'a que pour finalité de surveiller, de nous surveiller.
Et qu'est-ce qui pourrait être une alternative à ce modèle? Est-ce que vous avez des idées là-dessus?
Alors, une alternative, déjà, je pense que, pour ne pas parler d'alternative tout de suite, nous pouvons endiguer la surveillance de masse, c'est-à-dire préciser davantage les zones géographiques peut-être, ou tout simplement les individus qui sont vraiment considérés comme une menace. C'est pas l'ensemble des individus. L'ensemble des voyageurs ne devrait pas être sous surveillance, par exemple. Ensuite, la conservation des données. Limiter leur conservation dans les bases de données. Limiter les données qui sont conservées dans ces bases de données, dans ces systèmes d'information. Et puis une alternative, pour moi, c'est tout simplement rétablir une forme de lien social. Parce que si vous voyez maintenant, si je parle du phénomène de radicalisation, par exemple, ou du phénomène de criminalité en général, nous avons en France, et c'est le cas dans d'autres pays d'Europe, des banlieues, des cités, où nous avons parqué des personnes pour qui le terme liberté n'a plus de sens, n'a pas de sens, ni d'égalité d'ailleurs. Ce sont des gens qui sont stigmatisés, qui ne sont plus au contact de la société. Et je pense que il trouve dans le terrorisme, dans la radicalisation, une nouvelle forme d'exercice de leur propre liberté, ce qu'ils estiment être leur propre liberté. Et je pense que si nous renouons le contact avec ces individus, si nous évitons leur stigmatisation, parce que la surveillance est stigmatisante, la surveillance policière est stigmatisante, la surveillance par les nouvelles technologies aussi. Donc si nous rétablissons le contact, je pense que c'est déjà très très bien.
Donc l'anticipation, ça veut en fait aussi dire... Le préjugé contre certains individus.
Exactement. Ouais. La catégorisation, le profil.
Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci pour vos explications, Clémentine Boulanger, et bon courage pour la dernière ligne droite de votre projet de doctorat.
Merci beaucoup.
Nous clôturons le Humanities Talk d'aujourd'hui avec Party at the NSA du groupe Yacht. Passez une bonne fin d'année et j'espère vous retrouver l'année prochaine sur la fréquence 100,7.
Yes. Musik geht als Murchtinstrument benutzt, für eine Gesellschaft zu beeinflussen. Wie, das verrät Luc Bünches an einer Serie Musikalisch Murchtspieler. Immer donnerstes mittes, 1:30 und 1:30.